chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la sainteté. Mais avant de poursuivre, j'aimerais juste dire quelque chose parce que il y en a qui pourraient paniquer. Voyez-vous, l'intention de ces études, ce n'est pas de faire paniquer les chrétiens. Cela serait absolument un manque d'amour et de compassion. Prenons comme exemple un violoniste ou une violoniste, un ébéniste, un chirurgien et de centaines d'autres spécialités. Eh bien, toutes ces personnes, elles cherchent non pas à régresser dans leurs aptitudes, dans leurs spécialités, mais ils cherchent à progresser pour pouvoir encore être plus performants. Il me semble que c'est tout à fait naturel de comprendre cela. Eh bien, cela est également valable pour tout chrétien que nous sommes. Nous allons, par amour et par reconnaissance envers notre Seigneur, que, en tout cas pour moi, je lui dois absolument tout, eh bien, par reconnaissance et par amour pour mon Seigneur, j'essaye de tout faire pour progresser dans ma vie chrétienne. Donc, c'est valable pour tout un chacun. Voyez-vous, l'intention de ces études, elle n'est donc absolument pas négative. Bien au contraire, c'est pour vous aider à avancer, à vraiment à pouvoir lutter mieux et davantage, en sachant très bien que nous sommes dans un monde de plus en plus compliqué et de plus en plus pollué moralement, et sans compter tout le reste, toute la nature, elle est polluée par le péché. Donc, nous essayons simplement de progresser vers la sainteté. C'est ce que notre Seigneur nous demande. Il ne l'exige pas d'une façon formelle en disant « si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, eh bien je t'abandonne et tu ne fais plus partie de mes enfants ». Non, bien sûr que non. Il connaît notre fragilité et aussi nos possibilités. On ne peut pas demander à chacun la même chose. Ce serait incorrect. C'est comme les athlètes. Il y en a qui sont plus performants que d'autres. Et nous autres, on ne pourrait jamais faire ce qu'ils font. Donc, nous essayons de progresser. Et ça nécessite évidemment un tout petit peu de volonté et de discipline. On ne peut pas aller de l'avant simplement en s'asseyant dans un fauteuil et se dire « Dieu fait tout à ma place ». Ce serait insensé de penser une chose aussi stupide. Donc, notre étude d'aujourd'hui, elle est en deux parties. La sainteté de Christ et donc la deuxième partie, tout simplement, c'est pour nous aider. La bataille dans la sainteté, c'est ça l'enjeu. Mais pour le moment, nous allons donc de l'avant avec ce qui nous est demandé. Et vous pouvez noter, donc, pour commencer, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 28, où il est dit que celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, on a bien compris, par Jésus-Christ, nous devenions justice de Dieu. Chers amis, avant de poursuivre notre étude sur la sainteté personnelle, considérons la sainteté de Jésus-Christ. Surtout pour que nous soyons solidement fondés dans notre assurance en lui. Plus nous étudions en profondeur les implications du verset « Soyez saints, car je suis saint », plus nous sommes conscients de notre nature pécheresse. Nous sommes donc confrontés à la méchanceté de notre cœur tortueux et nous voyons combien nous sommes loin, souvent très loin, de la sainteté parfaite de Dieu. Mis au pied du mur, le chrétien véritable cherche donc refuge en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est important que nous comprenions la justice de Christ et le fait que cette justice nous est imputée. À bien des reprises, les Saintes Écritures attestent qu'au cours de son existence terrestre, Jésus a mené une vie parfaitement sainte. Il a vécu sans péché, Hébreux chapitre 4, verset 15, ainsi que 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 22, et même sans connaître le péché, nous est-il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. L'apôtre Jean affirme, il dit, il n'y a pas de péché en lui. 1er Épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 5. L'Ancien Testament le décrit prophétiquement comme étant mon serviteur juste. Ésaïe, chapitre 53, verset 11. Et le psalmiste dit de lui, « Tu aimes la justice et tu détestes le mal. » Psaume 45, verset 8. Ces témoignages rendus par 6 auteurs différents de la Sainte Bible indiquent qu'elle enseigne catégoriquement que Jésus-Christ a vécu vraiment sans péché. Encore plus digne de foi, c'est le témoignage que Jésus se rend à lui-même, car un jour, il regarda les pharisiens, il les a regardés droit dans les yeux, et il leur a demandé « Qui de vous me convaincra de péché ?» Saint Jean, chapitre 8, verset 46. Ce qui est significatif, ce n'est pas qu'il n'ait pas su répondre à sa question, mais que lui, Jésus, ait osé poser cette question. Le Seigneur faisait donc face à des gens qui, entre nous, le détestaient vraiment. Il venait de leur dire, même ceci, que leur père était le diable et qu'il voulait accomplir ses desseins. Donc, vous pouvez être sûr que s'ils avaient légitimement pu lui reprocher un acte inconsidéré ou un défaut de caractère, il ne s'en serait pas abstenu. De plus, Jésus posa cette question en présence de tous ses disciples, qui, eux, ne le quittaient pratiquement pas des yeux, et qui avait largement le temps d'observer la moindre contradiction dans sa vie. En dépit de tout cela, le Seigneur osa poser cette question parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible, c'est qu'il était sans péché. Or, la sainteté de Jésus est bien plus que l'absence de péché dans sa vie. C'est une parfaite conformité à la volonté de Dieu le Père. Il affirme qu'il est descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notez Saint Jean, chapitre 6, verset 38. À un autre moment, Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Saint Jean, chapitre 4, verset 34. Mais le témoignage le plus impressionnant qu'il rende à sa sainteté positive, c'est cette déclaration quand il a dit « Je fais toujours ce qui lui plaît, ce qui plaît à mon Père. » Saint Jean, chapitre 8, verset 29. Cette affirmation catégorique porte non seulement sur ses actions, mais aussi sur ses attitudes et sur ses motivations. Il arrive, bien entendu, que nous fassions une bonne action, bien que pas toujours très bien intentionnée, ce qui n'est guère agréable à Dieu, et on le comprend. La sainteté ne se limite donc pas à nos actes, à nos motivations, qui doivent également être saintes. C'est-à-dire que la volonté de Dieu seule doit nous inspirer le désir d'agir. Il faut donc que nos pensées soient devenues saintes, puisque Dieu, il les connaît avant même qu'elles nous viennent à l'esprit. Jésus-Christ a parfaitement satisfait à ses exigences pour lui-même comme pour nous. Il est né ici-bas, il s'est soumis à la loi de Dieu pour l'accomplir à notre place. Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Donc chaque fois que nous contemplons sérieusement la sainteté de Dieu, notre réaction naturelle ressemble à celle de Ésaïe, chapitre 6, verset 5, où il est dit « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. » Après avoir longuement fixé notre regard sur la sainteté de Dieu, sur sa perfection morale et sur sa féroce haine du péché, nous sommes horrifiés et nous sommes consternés, comme Ésaïe, par notre absence de sainteté. Sa pureté morale, elle met en évidence l'impureté de notre vie, de ma vie. Et voilà pourquoi il est important d'obtenir la même assurance que Ésaïe. Ta faute est écartée, ton péché est maintenant effacé. Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Il ne suffit pas d'avoir cette assurance au moment initial de notre salut. En fait, plus nous croissons en sainteté, plus nous avons besoin d'être certains que la parfaite sainteté de Jésus-Christ nous est crédité. En effet, à mesure que nous marchons vers la sainteté, l'Esprit Saint nous révèle combien nous en avons besoin. Je répète, à mesure que nous marchons vers la sainteté, l'Esprit Saint nous révèle combien nous en avons besoin. Mais tout en restant conscients de cette quête, nous avons intérêt à toujours garder à l'esprit que Jésus-Christ nous confère sa justice et que Dieu l'a pour nous. Il l'a pour nous identifié au péché. Tout ceci afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Je répète, afin que par lui, nous devenons justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Le fait que Dieu nous accepte en Christ par la justice de Jésus, cela peut paraître tellement élémentaire que vous vous demandez pourquoi j'insiste autant. Il nous faut y revenir sans cesse pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. L'Esprit Saint nous fait prendre conscience du chemin qu'il nous reste à parcourir. Il stimule notre aspiration à la sainteté et nos efforts dans ce sens. Mais Satan tentera de se servir de l'œuvre de l'Esprit Saint pour nous décourager. Donc, l'une des attaques favorites de Satan consiste à essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas vraiment chrétien. Il vous dira par exemple, « Oh, un vrai chrétien n'aurait pas les mauvaises pensées que tu avais aujourd'hui. Il se peut même que 6 mois auparavant, il ne vous aurait pas fait une telle remarque car, tout simplement, vous ne vous préoccupiez pas du tout du contenu de vos pensées. Mais étant donné que l'Esprit Saint a commencé à vous montrer combien la convoitise, le ressentiment et l'orgueil de votre cœur sont pécheurs, vous risquez d'avoir quelques doutes à propos de votre salut. Voici le témoignage d'un pasteur. Voici ce qu'il dit. Il y a un bon nombre d'années de cela, le Seigneur a permis que je traverse de profondes luttes intérieures pour me montrer combien mon cœur était tortueux. Satan se précipitait sur moi. Comment une personne comme toi, avait dit Satan, une personne comme toi qui est bourrée de conflits, comment peut-elle se dire chrétienne? Et j'ai dû contre-attaquer, donc il a fallu quand même de se battre. Ça ne va pas tout cuit. Et j'ai contre-attaqué, dit ce pasteur, en chantant le vieux cantique chrétien, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Quand j'avais fini de chanter, je louais Dieu pour le salut qu'il m'avait librement accordé par Jésus-Christ. Nous pouvons dire là, avec ce serviteur, Alléluia. Chers amis, vous aussi, si vous vous mettez diligemment en quête de la sainteté, vous serez souvent obligés de chercher refuge auprès du rocher de votre salut, non pas pour être sauvé une seconde fois, bien sûr que non, mais pour confirmer à votre cœur que vous l'êtes par la seule justice de Jésus-Christ. Je dis encore une fois, vous êtes vraiment sauvé et son enfant par la seule justice de Jésus-Christ. Vous commencez donc à vous identifier à l'apôtre Paul quand il affirme « Elle est digne de confiance, cette parole, et elle mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est donc à ce moment-là que la vie sainte que Jésus-Christ a menée pour vous prend donc maintenant toute son importance. Voyons à présent la seconde raison qui nous conduit à considérer la sainteté de Christ. Sa vie doit être un exemple de sainteté pour nous. L'apôtre Pierre dit que Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Il fait surtout allusion aux souffrances que Jésus a subies sans désir de vengeance, mais dans le verset suivant, il indique également que Jésus-Christ n'a commis aucun péché. L'apôtre Paul nous encourage donc à être les imitateurs de Dieu. Je répète, l'apôtre Paul nous encourage à être les imitateurs de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Tout en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Je répète, tout en disant, l'apôtre Paul donc, soyez vous aussi mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il est donc évident que la vie sainte et sans péché de Jésus-Christ doit nous servir d'exemple. Considérez une affirmation telle que « Je fais toujours ce qui lui plaît ». Osons-nous l'adopter comme notre but personnel dans la vie ? Sommes-nous vraiment disposés à passer au crible toutes nos activités, nos objectifs et nos projets, ainsi que nos actes impulsifs, pour voir s'ils font effectivement plaisir à Dieu? Si nous nous posons honnêtement cette question, nous éprouvons, je crois, un certain malaise. Nous savons que nous faisons certaines choses bonnes en elles-mêmes pour qu'on nous admire et non pas pour que Dieu puisse être glorifié. Nous en faisons d'autres carrément, simplement pour notre plaisir personnel, sans le moindre égard pour la gloire de Dieu. Quelle est donc notre attitude face à ceux qui ne nous témoignent aucun amour? Il y en a beaucoup autour de nous. Les considérons-nous comme des personnes pour lesquelles Christ est mort, ou simplement comme des gens qui nous gênent? Voyez-vous, il faut que nous apprenions à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Cet exemple qui était rempli de compassion pour les pécheurs et qui était capable de prier pour eux, tandis qu'il le clouait même à la croix du calvaire. La sainteté ne consiste pas en des spéculations mystiques ou en des ferveurs enthousiastes ou en des restrictions superflues, mais elle consiste à penser ce que Dieu pense et à vouloir ce que Dieu veut. Elle ne signifie donc pas non plus, comme on le pense souvent, d'être une adhésion à une liste de prescriptions et d'interdictions, ces dernières étant souvent les plus nombreuses. Et quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a dit « Je suis venu au Dieu, au mon Père, pour faire ta volonté. » Hébreux chapitre 10, verset 7. Tel est donc l'exemple que nous avons à suivre. Dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, dans chaque facette de notre caractère, le principe dominant qui nous motive et qui doit nous guider devrait être le désir de suivre Jésus-Christ et de faire la volonté de notre Père Céleste. Telle est donc la voie royale que nous devons suivre dans notre quête de la sainteté. Notre deuxième partie, c'est un changement de royaume. Il est dit dans Romains, chapitre 6, versets 6 et 7, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et que ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. » Voyez-vous, bien des chrétiens ont le profond désir de mener une vie sainte, mais ils se sont mis à croire qu'ils n'en sont pas, tout simplement pas capables. Ils croient qu'ils sont absolument incapables. Ils se sont débattus pendant des années avec certains péchés ou certaines failles de leur caractère. Oh, certes, ils ne vivent pas carrément dans le péché, mais ils ont quasiment renoncé à vivre une vie sainte et se contentent donc d'une vie de médiocrité morale qui ne satisfait ni eux-mêmes ni Dieu. La promesse de Romains chapitre 6, versets 6 et 7, cette promesse leur paraît totalement irréaliste. Les sévères commandements des Saintes Écritures sur la nécessité d'une vie sainte font qu'ils se sentent encore plus frustrés que jamais. Bien des gens ont consacré toutes leurs énergies à vivre une vie de sainteté. D'autres ont cherché à y arriver uniquement par la foi. Que d'heures ont été passées dans la prière pour triompher d'un péché apparemment absolument sans aucun succès. On ne compte plus les livres qui ont été écrits pour nous aider pourtant à découvrir le secret de la vie victorieuse. En cherchant les solutions à nous démêler avec le péché, nous nous trouvons devant une question embarrassante. Que devrais-je demander à Dieu? Et de quoi suis-je responsable moi-même? C'est à ce niveau-là que pour la plupart des gens naît la confusion. Car voyez-vous, lorsque nous nous engageons dans la vie chrétienne, nous nous imaginons que nous découvrirons facilement dans la Sainte Bible ce que Dieu veut que nous fassions et que nous le ferons. Mais c'est compté sans notre tendance à nous cramponner à nos vieilles habitudes de péché. Quand nous avons subi un bon nombre d'échecs à cause de notre nature pécheresse, on nous explique que nous avons essayé de mener la vie chrétienne avec l'énergie simplement de la chair. Il faut, par conséquent, que nous renoncions à nos propres efforts et que nous nous mettons à faire confiance totale à Dieu. Autrement dit, que nous remettons les rênes de notre vie à Dieu. On nous dit qu'il suffit de confier à Christ le péché qui nous embarrasse et de nous reposer sur l'œuvre accomplie au calvaire. Il mènera donc sa vie en nous, et nous connaîtrons une vie de victoire sur le péché. Puisque nous sommes lassés d'échouer et d'être frustrés par le problème du péché, nous sommes donc ravis d'apprendre que Dieu a déjà tout accompli et qu'il nous suffit donc de nous fonder sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ayant combattu nos péchés jusqu'au bord du désespoir, eh bien nous recevons cette nouvelle idée comme celui qui étouffe et qui prend un ballon d'oxygène. C'est comme si nous entendions l'Évangile pour la première fois. Mais voilà que bientôt, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous allons découvrir que notre nature pécheresse, hélas, elle continue à nous imposer sa loi. La victoire promise continue donc à nous échapper. Nous n'en avons pas encore fini. On n'a pas encore fini avec l'orgueil, la jalousie, le matérialisme, l'impatience et la convoitise. Nous continuons donc à manger souvent avec excès, à perdre notre temps, à critiquer notre entourage, à ne pas dire toute la vérité et à donner libre cours à une douzaine d'autres péchés, tout en nous haïssant de les commettre. Alors nous nous interrogeons sur ce qui ne va pas. Pourquoi suis-je incapable de remporter la victoire que tous les livres décrivent pourtant et que d'autres semblent avoir même remporté? Alors nous commençons à avoir l'impression que nous sommes un cas peut-être unique, que pour une raison ou pour une autre, notre nature pécheresse est bien pire que celle des autres. C'est alors que le désespoir s'installe en nous. Chers amis, c'est vrai que Dieu a tout préparé pour que nous menions une vie sainte, mais il nous a aussi confié des responsabilités très claires. Je répète pour que ce soit bien compris. C'est vrai que Dieu a tout préparé pour que nous puissions mener une vie sainte, mais il nous a aussi confié des responsabilités très claires. Considérons d'abord l'œuvre accomplie par Christ en notre faveur. Nous lisons dans la Sainte Bible que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Romains, chapitre 6, verset 12. La première chose à remarquer dans ce passage, c'est que la quête de la sainteté interdit au péché de régner dans notre corps, que cela exige de notre part des actes bien précis. Ce verset est une exhortation que l'apôtre Paul adresse à notre volonté. Ne laissez pas le péché régner, ce qui montre que notre responsabilité est engagée. Je répète, ce verset, c'est une assez sérieuse question que l'apôtre Paul adresse à notre volonté. Il dit « Ne laissez pas le péché régner en vous », ce qui montre très bien que notre responsabilité doit être engagée. L'expérience de la sainteté n'est pas un cadeau que nous recevons comme la justification, par exemple, mais c'est un bien que l'apôtre Paul nous exhorte clairement à acquérir. On doit donc se battre, ce n'est pas automatique. Le second point à relever dans l'exhortation de l'apôtre, c'est qu'elle se fonde sur le passage qui précède, notez bien le mot « donc ». L'apôtre Paul déclare « donc », en considération de ce qui précède, « ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel ». En d'autres termes, nous devons nous mettre en quête de la sainteté à cause de la vérité de certains faits. Et quels sont ces faits? Examinons Romains chapitre 6. Nous pouvons examiner ce chapitre. Et en réponse à la question, nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce puisse abonder? L'apôtre Paul répond, puisque nous sommes morts au péché, comment vivre encore? Comment avoir du plaisir de vivre encore dans le péché? Versets 1 et 2 de Romains chapitre 6. Ensuite, l'apôtre développe son raisonnement, verset 3 jusqu'au verset 11. Il est évident que le mot « donc » dans le verset 12 se rapporte au fait que nous sommes morts au péché. Étant morts au péché, nous ne devons pas le laisser régner dans notre corps mortel. Je répète, étant morts au péché, nous devons pas le laisser régner dans notre corps mortel. Pour obéir à l'exhortation du verset 12, il est indispensable que nous comprenions l'expression « mourir au péché ». C'est le résultat de notre union avec Jésus-Christ, selon le verset 2 à 11. Comme Christ est mort au péché, eh bien nous aussi nous sommes morts au péché. Ce n'est donc pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose que le Seigneur a fait au profit de tous ceux qui sont un avec lui. La seconde observation que nous pouvons faire, c'est que notre mort au péché est un fait. Que nous nous en rendions compte ou non, c'est un fait. Notre mort au péché ne dépend donc pas de nous seulement. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise dans notre vie à travers l'acte de reconnaissance que nous en faisons. Et certains s'égarent parfois sur ce point. Et ils croient que mourir au péché, c'est être mis hors de la portée du péché, en partant vivre à la montagne, loin de tout, avec deux chèvres. Or, cette mort, elle exige que nous nous considérions comme morts au péché. Verset 11. L'apôtre Paul nous dit, par ailleurs, que notre échec face à nos mauvaises habitudes, et elle est due au fait que nous ne nous considérons pas comme morts au péché. Cela exige aussi une certaine discipline, n'oublions pas. C'est vrai que nous devons nous considérer ou nous regarder comme tels, mais cette reconnaissance ne l'établira pas pour autant comme étant la vérité, même dans notre propre expérience. Les versets 11 et 12 vont donc de pair. Comme nous sommes morts au péché, par notre union avec Christ, il ne faut pas que nous laissions le péché régner en nous. Je répète, comme nous sommes morts au péché, par notre union avec Jésus-Christ, il ne faut pas que nous laissions le péché régner en nous. Notre expérience quotidienne avec le péché est déterminée non pas par ce que nous considérons comme étant vrai, mais par la résolution que nous opposons au péché, résolution qui doit être influencée par le fait que nous sommes morts au péché. Mourir au péché, cela signifie donc mourir à l'emprise du péché et à son règne sur nous. Je répète, mourir au péché, cela signifie de mourir à l'emprise du péché et à son règne sur nous. Avant de mettre notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut, nous étions dans le royaume de Satan et du péché. Nous avons suivi le Dieu de ce monde, le prince qui règne entre ciel et la terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Nous étions sous l'empire de Satan, selon Actes chapitre 26, verset 18. Et ainsi aussi des ténèbres, ça va avec Satan. Il représente les ténèbres. Dieu représente la lumière. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous étions donc esclaves du péché, selon Romains chapitre 6, verset 17, en naissant dans ce royaume du péché, de l'esclavage et de la mort. Tous les êtres humains, depuis Adam, à l'exception du Fils de Dieu, sont nés esclaves dans le royaume du péché et de Satan. Je répète, tous les êtres humains, depuis Adam, à l'exception du Fils de Dieu incarné, sont nés esclaves dans le royaume du péché et de Satan. Or, par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes maintenant morts à ce royaume du péché. Nous avons été libérés du péché, selon Romains chapitre 6, verset 18. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres, selon Colossiens chapitre 1, verset 13. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, selon Actes chapitre 26, verset 18. Avant notre conversion, nous étions esclaves du péché, totalement sous l'empire de l'ennemi. Quelle que soit la décence et la morale de notre vie, nous habitons dans le royaume du péché. Mais à présent, par notre union avec Jésus-Christ dans sa mort au péché, nous sommes donc délivrés du royaume du péché et nous sommes transportés dans celui de la justice. Le professeur John Murray, en commentant l'expression « mort au péché », il explique ceci. Si nous considérons le péché comme un royaume ou un lieu, le croyant n'y vit plus du tout. De même qu'on peut dire d'une personne qui est décédée et qui a quitté ce monde terrestre, mais il a passé, il n'est plus, je le cherche, il était introuvable. Psaume 37, verset 36. De même, on peut dire d'une personne qui a quitté le royaume du péché, elle n'y est plus du tout, car elle est maintenant morte au péché. Le croyant est donc mort au péché une fois pour toutes, et il a été transporté dans un tout autre royaume. C'est parce que nous demeurions dans ce royaume du péché, sous son règne et sous sa domination, que nous avons commencé à pécher dès l'enfance déjà. Étant esclaves, nous avons agi en tant qu'esclaves. Nous avons pris des habitudes et des acquis. Nous avons donc un caractère marqué par le péché. Mais si nous étions bons, selon l'opinion du monde, nous vivions pour nous-mêmes et non pas pour Dieu. Notre attitude envers Jésus-Christ s'est résumée par les paroles de ses ennemis. « Nous ne voulons pas, ont-ils dit, qu'il règne sur nous. » Saint Luc, chapitre 19, verset 14. Mais si nous avons été délivrés de ce royaume-là, pourquoi continuons-nous à pécher? Alors que Dieu nous a pourtant libérés de l'emprise du péché, c'est que notre nature pécheresse réside toujours encore en nous. Même si le pouvoir du péché sur nous est vaincu, le péché qui subsiste dans le croyant est encore terriblement vigoureux et il le pousse constamment à faire le mal. Prenons une illustration dans le domaine militaire. Voilà qu'il y a deux fractions rivales qui se disputent le contrôle du gouvernement d'un pays. Finalement, avec l'aide d'une armée étrangère, l'une des fractions remporte la guerre et s'installe au pouvoir. Mais les perdants ne rendent pas les armes pour autant. Ils changent tout simplement de tactique et ils prennent le maquis et ils continuent la lutte. En fait, ils se battent si bien que les troupes étrangères sont obligées de soutenir le gouvernement qui est en place. Eh bien, il en va de même, exactement de même, pour les chrétiens. Satan a été vaincu et le règne du péché est terminé. Mais notre nature pécheresse a recours à une tactique de guérilla pour nous inciter à continuer de pécher. Ceci explique donc le conflit entre elle et l'Esprit Saint, comme le décrit l'apôtre Paul, quand il dit « Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit et l'Esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme aussi. Ne faites-vous pas ce que vous voulez. » Galates chapitre 5, verset 17. Par ailleurs, puisque nous sommes nés pécheurs, nous avons acquis dès notre enfance des habitudes de péché. Dans son livre « La piété par la discipline », Ige Adam a déclaré « Nous sommes nés pécheurs, mais il nous a fallu l'exercice de la discipline pour développer notre manière propre de pécher. Notre ancienne vie avait été formée à l'impiété. Nous avons tous tendance à agir d'après ces mauvaises habitudes qui se sont gravées en nous par une longue pratique. Supposons par exemple que j'ai une jambe estropiée qui me force à boiter. Mais si les médecins guérissent ce mal par une intervention chirurgicale, je continue à avoir tendance à boiter, ou bien sûr beaucoup moins qu'avant. Et lorsque les esclaves ont été libérés par la proclamation d'émancipation du président Lincoln, pensez-vous qu'ils se sont tout de suite comportés en hommes libres? Pas du tout. Ils ont continué d'agir comme s'ils étaient esclaves, car ils avaient toujours vécu de cette façon-là. De même, les chrétiens ont tendance à pécher par habitude. Nous sommes habitués à chercher notre intérêt au lieu de celui d'autrui. Nous sommes donc habitués à nous venger du mal qu'on nous fait, à satisfaire les appétits de notre corps, à vivre pour nous-mêmes et non pas pour Dieu. En devenant chrétiens, nous ne nous débarrassons pas du jour au lendemain, en claquant des doigts, des anciennes habitudes. En fait, nous passerons le reste de notre vie à nous en défaire et à prendre celle de la sainteté. Non seulement nous avons été esclaves du péché, mais nous vivons aussi dans un monde peuplé d'esclaves du péché. Les valeurs prônées par notre entourage, cela reflète cette servitude, et le monde cherche donc évidemment à nous couler dans ce moule qui est vraiment inique. Par conséquent, bien que le péché ne règne plus en nous, il ne nous laissera jamais totalement tranquilles. Nous avons été délivrés du règne du péché sur nous, mais non de ses attaques. Comme le déclare du reste le docteur Martin Lloyd-Jones, dans son commentaire sur Romains chapitre 6, le péché, qui ne peut pas être le maître de notre personnalité profonde, peut régner dans notre corps mortel si nous le laissons faire. Il transformera donc les instincts naturels que nous avons de notre corps en convoitise. Il transformera nos appétits naturels en complaisance. Il transformera notre besoin de vêtements et de logements en matérialisme et notre vie sexuelle normale en immoralité. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'être sur nos gardes pour que nous ne laissions pas le péché régner sur notre corps. Avant notre conversion, avant notre mort à l'emprise du péché, eh bien une telle exhortation n'aurait pas eu de sens. Vous ne pouvez pas dire à un esclave « Vis maintenant comme un homme libre », mais vous pouvez le dire à quelqu'un qui a été libéré totalement de l'esclavage. Maintenant que nous sommes effectivement morts au péché, à son emprise et à son règne, nous devons compter sur la réalité de ce fait, et nous ne sommes plus esclaves, mais nous pouvons tenir tête maintenant au péché, et nous pouvons lui dire non. Auparavant, nous n'avions pas le choix, mais à présent nous l'avons. Quand nous péchons en tant que chrétiens, nous ne le faisons pas en tant qu'esclaves, mais en tant qu'individu bénéficiant de la liberté de choix. Nous péchons parce que nous choisissons de commettre le péché. Je devrais arrêter après mon verre de bière, par exemple, mais je veux absolument en boire un deuxième. Bien que je suis diabétique, je ne devrais pas manger la moitié de la plaque de chocolat, mais je le fais quand même. En résumé, Nous avons été libérés du règne et de la domination du péché, du royaume de l'injustice. Et notre délivrance résulte donc de notre union avec Jésus-Christ dans sa mort. Et quand le Seigneur est venu dans ce monde, il a pénétré volontairement dans le royaume du péché, tout en ne péchant jamais. Quand il est mort à ce royaume du péché, selon Romains chapitre 6, verset 10, et par notre union avec lui, eh bien nous sommes morts avec lui. Notre mort à la domination du péché est donc un fait sur lequel nous devons compter pour pouvoir faire face et dire simplement non et non et non. Il faut donc que nous gardions notre corps pour que le péché ne règne pas en nous. Ça nécessite un peu de discipline et de volonté, évidemment. Simplement être assis dans mon fauteuil en buvant une tasse de café avec le croissant ou lit au lait, nous voyons donc que Dieu a tout préparé pour notre sainteté. Il nous a délivrés par Jésus-Christ du pouvoir du péché afin que nous puissions résister maintenant au mal. Et je termine, mais c'est à nous, à toi, mon cher frère, et à moi, qu'incombe la responsabilité de cette résistance. Dieu ne l'assume pas à notre place. Confondre le potentiel de résistance que Dieu nous fournit avec la responsabilité de la résistance qui nous incombe à nous, c'est aller au-devant d'un désastre dans notre quête de la sainteté. Je répète pour terminer, mais c'est à nous que incombe la responsabilité de faire et de tenir cette résistance. Dieu ne l'assumera pas à notre place. C'est pas à lui de faire le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas, en tout, y compris quand nous nous sommes décidés pour le salut. C'était à nous de faire le premier pas, et non pas au Seigneur. Confondre donc le potentiel de résistance que Dieu nous fournit avec la responsabilité de la résistance qui nous incombe, eh bien c'est aller, bien entendu, au-devant d'un désastre dans notre quête de la sainteté. Chers amis, nous allons prier maintenant et je ne sais pas si nous avons le temps, peut-être, pour mettre quelques chants, j'en suis pas sûr, mais on peut toujours essayer. Prions tout d'abord. Ô notre Père, béni sois-tu, toi qui de siècle en siècle appelles tous ceux que tu veux consacrer à ton service, toi qui as conduit ton propre fils à un baptême qui fut pour lui une onction royale et qui fut pour lui le gage de sa vocation. Nous te rendons donc grâce pour nous avoir confié, nous aussi, à devenir les disciples de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous d'écouter ton appel d'un cœur sincère et de lui demeurer fidèle avec l'aide de ton Esprit Saint. Fais-nous sentir de plus en plus ta puissance et conduis-nous de foi en foi, de clarté en clarté, et laisse-nous enfin contempler ta magnificence dans ton céleste royaume. Amen. Et maintenant, essayons. Je suis pas sûr que je vais réussir, parce que c'est par parfois difficile, c'est des CD qui ont été transmis il y a tellement longtemps, voyez-vous, mais on peut toujours essayer. C'est pas défendu. Non, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pas possible. Pas pour aujourd'hui. Je m'en excuse. À demain donc pour la suite de cette série. Au revoir mes très chers amis.